Julien Sirène, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accueillir au sein du laboratoire de mesure La CRIRAD installé en périphérie de Valence, un laboratoire de mesure qui doit sans doute résonner dans bon nombre de têtes et puis aussi qui apporte des dimensions toujours de précaution auprès du grand public. Et nous allons voir avec vous, eh bien, surtout dans un contexte automnal où la cueillette des champignons va bon train, d'une étude qui a été l'objet d'un état des lieux sur les champignons. Mais auparavant, peut-être avant d'aborder tout ce qui concerne ce type de mesure et la radioactivité en tâche de fond, peut-être présenter toujours un peu plus ce qu'est la CRIRAD et puis aussi le contexte de sa naissance et pourquoi existe-t-elle encore maintenant ?
Oui, donc la CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association à but non lucratif qui s'est créée au lendemain de Tchernobyl. Des citoyens, en particulier de la Drôme, se sont dit « mais est-ce que le nuage s'est vraiment arrêté à la frontière ?» Donc ils ont décidé de prélever des échantillons végétaux autour de chez eux. Ils ont fait analyser en laboratoire et ils se sont rendus compte que non, le nuage ne s'était pas arrêté et que... on décelait en France une contamination importante. Donc suite à ça, ils ont décidé de monter une association et de créer leur propre laboratoire pour pouvoir faire leurs propres analyses, partant du constat que les laboratoires officiels, en fait, cachaient la réalité de la contamination en France. La CRIRAD, depuis, donc s'est constituée en 86, existe toujours 30 ans après, parce que les combats sont nombreux dans le domaine de la radioactivité. Donc le but de la CRIRAD, c'est de former et d'informer sur les risques liés à la radioactivité, qu'il s'agisse de radioactivité artificielle ou naturelle, dans le but de faire prendre conscience aux gens du risque et veiller à ce que la réglementation soit appliquée et faire en sorte que les normes, quand on considère que ces normes sont trop laxistes, soient évoluées, en fait, dans un sens plus favorable aux populations. La CRIRAD donc, est une association qui vit en particulier grâce à l'argent de ses 6000 adhérents. Ces locaux sont basés à Valence, dans la Drôme. Donc, nous sommes 13 salariés à la CRIRAD. Et donc, nous fonctionnons d'une part avec les salariés de l'association qui gère en particulier un laboratoire de mesure. Et d'autre part avec de nombreux bénévoles, administrateurs qui tiennent des salons, qui s'investissent dans, en particulier dans différentes prises de parole, interventions, pour faire connaître et pour diffuser l'information de la CRIRAD.
Au niveau aide, donc, vous disiez il y a 6000 adhérents qui aussi abondent de manière financière. Vous avez le soutien aussi des politiques publiques ?
Alors, donc, la CRIRAD est financée donc, en grande partie par ses adhérents, près de la moitié. Ensuite, le reste des financements provient alors, d'une part des études du laboratoire. Le laboratoire fonctionne comme un bureau d'études, disons, dans le domaine de la radioactivité. Et donc effectue tout un tas d'analyses, que ce soit pour des particuliers qui souhaitent par exemple justement connaître la contamination des champignons qu'ils cueillent, des collectivités qui souhaitent étudier par exemple l'impact d'un site pouvant rejeter de la radioactivité et se trouvant dans leur secteur, des industriels. Donc voilà, le laboratoire a une fonction de bureau d'études, disons. Et par ailleurs, donc, nous avons des projets qui sont subventionnés par des collectivités. Par exemple, nous gérons un réseau de balises d'alerte dans la vallée du Rhône. Le but de ce réseau, c'est d'avoir un autre réseau que le réseau officiel, qui, au moment de Tchernobyl, n'avait pas alerté les populations. Et donc ce réseau est constitué de balises qui se trouvent à Romans, à proximité des installations nucléaires de la vallée du Rhône, donc Romans, PH de Roussillon, près de la centrale de Saint-Alban, Cruas, donc on a une balise à Montélimar, également au niveau de Saint-Marcel-d'Ardèche, pas très loin du Tricastin. Voilà, je ne les cite pas toutes, mais on a un réseau de balises d'alerte dans la vallée du Rhône. Et donc ces balises sont financées par de nombreuses collectivités, le conseil départemental de la Drôme par exemple, la mairie d'Avignon, un certain nombre d'autres collectivités, même si un des gros financements jusqu'à présent était apporté par la région Rhône-Alpes et ce financement s'est arrêté suite à l'élection de Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, il y a un certain nombre de salariés, on peut préciser votre fonction ?
Oui, donc moi je suis ingénieur chargé d'études au sein du laboratoire. Donc, je m'occupe alors principalement de la question du radon. Donc le radon, c'est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium présent dans le sol et qui est le deuxième risque de cancer du poumon. Donc c'est un petit peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, mais je m'occupe aussi à côté du radon donc de différentes études et en particulier c'est moi qui ai conduit l'étude sur les champignons que nous avons faite à l'automne 2015.
Alors justement, donc, on va aborder cette chronologie puisque c'est une étude, mais y a-t-il eu d'autres études auparavant, en sachant peut-être aussi que vous avez visé le champignon. On verra aussi dans un deuxième temps pourquoi le champignon et pas d'autres végétaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres études précédemment?
Oui, donc la CRIRAD a fait de nombreuses analyses de champignons dans les 10 années qui ont suivi sa création. Parce qu'en fait, les champignons sont des végétaux qui ont la capacité de fixer préférentiellement un certain nombre de polluants du sol, comme des métaux lourds par exemple, mais également des éléments radioactifs qui pourraient se retrouver dans le sol. Disons, entre 86, 87 et 97, la CRIRAD a analysé plus de 900 échantillons de champignons, récoltés un peu partout en France. Et donc ces nombreuses analyses ont permis de dégager certaines tendances et en particulier de montrer que certains champignons fixaient plus que d'autres la radioactivité. Donc ça nous a permis de dresser un classement en fait des espèces en fonction de leur capacité à fixer la radioactivité.
C'est un indicateur, on peut dire, privilégié le champignon dans tout le contexte de nature.
Oui, effectivement, le champignon, comme d'autres espèces, comme par exemple les plantes aromatiques qui vont fixer plus préférentiellement certains polluants, donc les champignons vont avoir la capacité à fixer préférentiellement la radioactivité du sol à travers l'échange entre le mycélium du champignon et le milieu dans lequel ce mycélium se trouve.
Alors, quand on parle d'un champignon, le mycélium, est-ce qu'on peut parler aussi d'une durée de vie pour le champignon, ce qui permet de voir aussi des évolutions, ou ça fonctionne comment un champignon?
Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du fonctionnement du champignon et en particulier de son mycélium, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le champignon, en fait, a un organe souterrain donc, qui s'appelle le mycélium, donc qui est le principal élément constitutif du champignon. Et ensuite, à partir de ce mycélium, on va avoir la pousse des champignons qu'on va être amené à ramasser pour les comestibles et qu'on va trouver dans les bois ou ailleurs pour les autres. Mais disons, ce qu'on va être en mesure d'analyser, c'est plutôt le champignon qui pousse et qu'on ramasse à la surface que le mycélium qui est beaucoup plus difficile à détecter et à appréhender.
D'accord. Les champignons, chaque année, peuvent provenir d'un même mycélium?
Oui, tout à fait. Donc un même mycélium donc, va avoir une durée de vie longue et va pouvoir chaque année, même au sein d'une année, donner plusieurs fois des champignons. Et d'ailleurs, donc, certaines études montrent, alors, des études pas conduites par la CRIRAD, mais montrent qu'un même mycélium, au cours d'une saison, va fixer de manière différente les polluants du sol, et notamment la radioactivité, en fonction des conditions du milieu, de son humidité, de la température, etc. Donc quand on analyse plusieurs champignons cueillis, au même endroit tout le long d'une saison, on voit d'importantes différences, par exemple d'un facteur 10, quand il s'agit du césium-137, donc élément radioactif qui nous intéresse particulièrement.
Alors vous aviez fait donc une cueillette et un référencement exhaustif dans les années 87, juste après l'événement de Tchernobyl. Alors pourquoi cette étude, ce contexte, 30 ans après?
Alors justement, donc l'idée c'était de montrer, enfin de faire un premier état des lieux, beaucoup plus modeste disons que ce qu'on avait fait dans les 10 années qui avaient suivi Tchernobyl, puisqu'il s'agissait cette fois-ci d'analyser une quarantaine d'échantillons. Mais l'idée, c'était de montrer que, eh bien oui, 30 ans après Tchernobyl, on a toujours une contamination détectable, voire dans certains cas, qui pourrait dépasser certaines normes si les champignons étaient importés. Donc l'idée, c'était de montrer qu'un accident nucléaire, ça peut encore avoir un impact, même si cet accident, même à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, et plusieurs dizaines d'années après l'accident, on a toujours un impact mesurable.
Vous évoquez Tchernobyl, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs nucléarisants qui pourraient aussi interférer dans vos mesures? Parce qu'on parle d'événements de Fukushima, enfin c'est peut-être un peu loin, ou alors peut-être aussi des essais peut-être militaires. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres contextes aussi de contamination?
ce qu'on mesure actuellement dans les champignons, c'est principalement du césium-137. Donc le césium-137 est un radionucléide artificiel, donc il n'existe pas dans la nature. Si on avait analysé des champignons il y a 100 ans, ou du sol, ou n'importe quoi, on aurait trouvé nulle part du césium-137. La première phase de contamination en césium-137, ça a été les essais nucléaires atmosphériques conduits dans les années 50-60, donc par les principales puissances nucléaires, l'URSS, les États-Unis, mais aussi la France, le Royaume-Uni. Quand un essai nucléaire avait lieu dans un hémisphère donné, cet essai entraînait un dépôt au sol sur tout l'hémisphère. Alors, on trouvait initialement tout un cocktail en fait, d'éléments radioactifs déposés suite à l'essai. Aujourd'hui, on ne mesure plus que le césium-137 parce que c'est l'élément, enfin en tout cas dans la plupart des secteurs, parce que c'est l'élément qui a la plus longue période. Il a une période de 30 ans. Donc ça veut dire que sa teneur est divisée par 2 tous les 30 ans. Alors que dans les jours et les semaines qui suivaient l'essai, on pouvait très bien avoir d'autres éléments radioactifs. C'est le cas notamment aussi quand on a un accident nucléaire. On a en particulier le l'iode-131 qui est un élément radioactif qui a une période de 8 jours. On peut le mesurer de manière très importante dans les jours qui suivent un essai ou encore plus un accident nucléaire. Mais au bout de quelques mois, cet iode-131 a disparu. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on mesure uniquement en fait, le césium-137 quand on analyse ça. Enfin presque uniquement parce que dans le cadre de cette étude, on a également analysé du strontium-90. Donc il y a un autre élément radioactif alors, qui provient lui aussi des essais nucléaires et de Tchernobyl, même si ce qu'on mesure en France provient plutôt des essais nucléaires que de Tchernobyl. Donc on a vu dans le cadre de cette étude que le strontium-90, même s'il est présent à des proportions beaucoup plus faibles que le césium-137, il est également mesurable. D'accord. Donc je disais, les essais nucléaires, ça c'est la première phase de contamination, années principalement 50-60. On a une deuxième phase importante avec Tchernobyl. La contamination liée à Tchernobyl est très différente de celle liée aux essais nucléaires, puisqu'en gros, les essais nucléaires entraînaient une dispersion à très haute altitude des éléments radioactifs qui ensuite se déposaient lentement et de manière relativement homogène sur le territoire. Après, on a pu avoir des phénomènes de concentration, mais disons, le dépôt, lui, était relativement homogène. L'explosion du réacteur à Tchernobyl a entraîné la création d'un nuage contenant, un cocktail d'éléments radioactifs qui se sont déposés de manière beaucoup plus hétérogène en fonction de la circulation des vents et des précipitations. Donc, en particulier en France, donc on a eu des dépôts liés à Tchernobyl sur toute la France, mais ces dépôts ont été plus importants sur l'est de la France parce que ce sont les endroits où il a le plus plu quand les masses d'air contaminées nous ont atteints. Donc l'endroit dans l'est de la France où les dépôts ont été les plus importants, c'est la Corse, puisqu'on a eu deux phases de pluie en fait, sur la Corse au moment où le nuage est passé. Donc ça, c'est la deuxième phase de contamination. Ensuite, on a pu avoir d'autres phases plus ponctuelles, mais qui ont pu entraîner une contamination, comme par exemple l'accident d'Algeciras, qui était une fonderie dans le sud de l'Espagne, où en 1998, une source de césium a été fondue. Et donc, on a retrouvé des traces de césium dans différents coins de l'Europe, et notamment en France. Ce sont nos balises d'alerte qui ont pu le mesurer, pas en direct parce que les niveaux étaient faibles, mais on a pu l'analyser a posteriori sur les filtres des balises. Donc on a mesuré une contamination suite à Algeciras. Et on peut citer également effectivement Fukushima, l'accident de la catastrophe de Fukushima, qui a entraîné également donc, des rejets massifs d'éléments radioactifs, iode-131, mais également césium-137 ou autres. Et donc ces masses d'air contaminées ont atteint la France. La CRIRAD, là encore, a pu les mesurer sur son réseau de balises. Mais les niveaux, en gros, étaient 100 à 1000 fois plus faibles que Tchernobyl. Donc ce sont des niveaux beaucoup... Voilà, c'est pas du tout le même ordre de grandeur que Tchernobyl. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des niveaux mesurables, disons, de césium-137 de Fukushima, parce que c'est masqué dans l'ensemble. Ouais. Par contre, dans les jours et les semaines qui ont suivi Fukushima, on a pu mesurer l'impact de Fukushima, en particulier du fait de la présence de l'iode-131.
Ah, voilà, qui paraît facilement...
Qui, lui, a une période de 8 jours. Ouais.
C'est toute une terminologie, effectivement, 137, césium, 134 aussi, vous en parlez,
oui.
Qui est si fragile dans le temps peut-être.
C'est ça, donc on a, pour un élément radioactif donné, on peut avoir plusieurs isotopes, Donc par exemple le césium 130, le césium, donc a deux principaux isotopes qui sont rejetés en cas d'accident nucléaire, le césium 137, 30 ans, et le césium 134, 2 ans. Donc dans les années qui ont suivi Tchernobyl, en fait le césium 134 provenant de Tchernobyl était présent de manière importante, alors que le césium 134 provenant des essais nucléaires des années 50-60 avait lui disparu, puisque de nombreuses périodes s'étaient écoulées. Donc l'analyse, en particulier par la CRIRAD, du ratio entre le césium 137 et le césium 134 présent suite à Tchernobyl a permis de calculer, disons, la part du césium 137 qui provenait de Tchernobyl par rapport à celle qui provenait des essais nucléaires, puisqu'on connaissait le ratio en fait de ce qui a fait été rejeté par par Tchernobyl. Donc à l'heure actuelle, donc dans l'étude, j'y viendrai après, mais qu'on a conduite en 2015-2016, on n'a plus mesuré de césium 134, ce qui est entre guillemets une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de nouvel accident, mais c'est normal, disons. Le césium 134 de Tchernobyl a disparu aujourd'hui.
Alors ça vous a conduit aussi à des choix de sites hein, pour cette deuxième étude. Avez-vous mis en regard la première étude, ou alors comment vous avez organisé cela?
Alors, on a...
Par rapport à des écosystèmes ou peut-être des lieux sensibles, je ne sais pas.
Alors, plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'était de choisir des espèces parmi les plus consommées. Le deuxième facteur, c'était d'essayer quand même d'avoir des espèces de différents secteurs de la région Rhône-Alpes à l'époque. Et c'était effectivement essayer de cibler, a priori, des secteurs qui, en particulier, avaient été les plus touchés par Tchernobyl. Alors, on s'est heurté à un problème. Le problème, ça a été les conditions climatiques qui ont fait qu'en fait, on n'a pas trouvé des champignons partout où on aurait voulu. Donc ensuite, on s'est adapté, disons, à la réalité. Alors, il faut savoir que pour faire cette étude, la CRIRAD a fait appel à des bénévoles. Donc on a de nombreux bénévoles qui ont participé, qui ont ramassé des champignons un petit peu partout, jusqu'aux rives du lac Léman, disons. Et ça nous a permis d'obtenir les 40 échantillons de l'étude dans un territoire géographique relativement étendu et sur des espèces. Donc on a au total pu analyser 9 espèces de champignons avec chaque espèce plusieurs échantillons.
Mais justement, Dominique, vous êtes adhérente à la CRIRAD, vous avez participé à ces cueillettes de champignons?
Voilà, moi j'ai principalement ramassé deux types de champignons, donc les petits gris sur le secteur donc du Vercors, plus précisément Bouvante et le plateau de l'Écherasson. Et un peu plus près de Saint-Jean-en-Royans, j'ai ramassé les armillaires couleur de miel. Il fallait une quantité suffisante pour faire la fameuse boîte de pétri, c'est-à-dire il a fallu quand même toute une cagette des deux espèces pour pouvoir assécher les champignons, puisqu'ils ont ces champignons ont beaucoup d'eau, donc il fallait des quantités importantes. Alors c'est vrai qu'on les a bien regardés avant de les passer au laboratoire, parce qu'on n'allait pas les manger, hein. Donc... Ça a été un gros sacrifice, mais c'était pour la bonne cause. Ce que j'ai regretté, par contre, c'était de ne pas pouvoir avoir pu ramasser des sanguins sur la zone qui était beaucoup plus impactée, parce que la CRIRAD a fait un atlas et a une zone colorée en violet qui est fortement impactée, qui se situe vers Chouclapier. Et je suis repartie faire cette tentative de collecte et il faisait beaucoup trop froid. Donc c'est mon seul regret là-dessus.
En fonction d'un même terrain, le taux de radionucléine peut varier dans le temps?
Ah oui, si on prend par exemple le cas du césium 137, on s'est aperçu suite à Tchernobyl qu'on pouvait avoir une contamination très hétérogène à l'échelle d'un terrain, en particulier dans les secteurs où il avait neigé au moment de Tchernobyl et où le césium s'était déposé avec la neige et ensuite avec la fonte des neiges. On va avoir une accumulation du césium en fonction des endroits où l'écoulement se fait. Donc après, à l'échelle d'un terrain, vous pouvez très bien trouver une contamination hétérogène en fonction de la pente, en fonction de l'endroit où l'eau s'accumule, en fonction donc notamment de l'écoulement des eaux. André Paris, disons, qui avait fait l'atlas de Tchernobyl, avait constaté une accumulation au pied des hêtres. En fait, les hêtres ont une forme spécifique qui fait que l'eau s'écoule à un endroit donné du tronc. Et donc, le césium, il avait constaté, André Paris, que le césium s'accumulait de manière préférentielle à l'endroit où l'eau coulant le long du tronc se concentrait.
Une doline, hein, ça concentre, et je crois que la CRIRAD avait fait des études de ces fameuses dolines qui sont des entonnoirs et qui peuvent justement, au fond, accumuler les métaux lourds qui se concentrent sur le fond de la doline.
Ces cuvettes peuvent être un réceptacle dans le temps de...
Oui, tout à fait. En fonction, disons, de la topographie d'un terrain, on va avoir, pour faire court, disons, une accumulation préférentielle dans les creux, là où l'eau s'écoule, plutôt que dans les endroits d'où l'eau va s'échapper.
D'accord. Finalement, la logique de ce que vous expliquez par rapport à la Corse, où la contamination n'est pas restée peut-être aussi longuement que dans d'autres secteurs.
Oui, donc on avait constaté qu'en Corse, disons, la contamination avait été particulièrement importante suite à Tchernobyl parce que deux épisodes pluvieux avaient affecté la Corse au moment où les masses d'air contaminées étaient passées. Mais on s'est aperçu également que le lessivage, disons, de la contamination a été plus important qu'ailleurs du fait d'un régime hydrologique et de précipitations différents de ce qu'on peut trouver sur le continent et donc d'un lessivage plus rapide.
Alors la méthodologie pour les champignons, donc effectivement, des bénévoles ramassent, ils ont beaucoup de quantité pour faire des mesures.
Alors oui, malheureusement pour les bénévoles, mais donc en gros, le principe, ça va être de ramasser des champignons frais, de les peser le plus tôt possible après cueillette pour connaître leur poids frais, pour pouvoir ensuite calculer, disons, des teneurs en termes de becquerel par kilo frais. Donc une fois qu'on a ramassé et pesé les champignons, on va les sécher lentement, disons, d'abord à l'air libre, puis en étuve, mais à température faible, autour de 50 degrés, pour obtenir un matériau sec. Alors pourquoi sécher les champignons ? Parce qu'en fait la radioactivité va rester dans la matière sèche, donc ça va permettre de concentrer la radioactivité de l'échantillon et donc d'obtenir une meilleure précision dans la mesure. Le problème, c'est que dans l'idéal, on a besoin, disons, entre 50 et 100 grammes de matière sèche pour faire l'analyse. Or, un champignon, en gros, contient 10% voire moins de matière sèche. Donc ça veut dire que 50 grammes de matière sèche, ça correspond à 500 grammes de matière fraîche. Donc dans l'idéal, disons, pour que l'analyse puisse être la plus sensible possible, c'est bien d'avoir, mettons, entre 500 grammes et 1 kg de matière. Mais ça n'a pas toujours été possible, donc après on s'est adapté. L'idée, c'était de prendre un peu des échantillons, des espèces caractéristiques de ce qu'on avait détecté lors de la première grosse vague d'analyse en 87-97. Donc l'idée, c'était à la fois d'avoir des champignons qui figuraient parmi les plus contaminés et puis d'autres moins contaminés pour essayer d'avoir... toute la fourchette, disons.
Ça demande un travail de laboratoire assez précis pour mesurer cela ?
Oui, alors pour mesurer la contamination, disons, d'un aliment, quel qu'il soit, on ne peut pas faire de mesure avec un simple compteur Geiger, sauf si on avait quelque chose de vraiment très très contaminé, par exemple si on se situait à proximité de Tchernobyl ou de Fukushima. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, un compteur Geiger fait une mesure globale. Donc quand vous faites une mesure avec un compteur à un endroit donné, vous n'avez jamais zéro. Vous avez toujours un certain rayonnement qui provient du sol, donc, et notamment de l'uranium et de ses descendants présents dans le sol, mais également des rayonnements cosmiques. Donc où que vous soyez, vous avez ce qui s'appelle un bruit de fond, qui dépend de la région, qui dépend de l'altitude, qui dépend de tout un tas de paramètres. Et donc pour que ce qui est contenu dans votre échantillon soit détecté par le radiomètre, il faut qu'il soit suffisamment concentré et élevé pour se démarquer du bruit de fond. Ce qui n'est pas le cas avec la contamination des aliments. Donc, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. En fait, il y a deux principaux risques en matière de radioactivité. Le premier, c'est l'irradiation externe, donc c'est le rayonnement émis par l'échantillon. Donc ça, c'est ce qu'on mesure au radiomètre. Mais le deuxième risque, c'est la contamination. C'est si vous avez par exemple un aliment contenant du césium, quand vous ingérez cet aliment, ce césium va émettre un rayonnement à l'intérieur de l'organisme. Et donc ça, cette contamination, on a, du fait de la limite du compteur qui ne mesure que quelque chose de global, on ne peut pas l'apprécier, sauf en cas de contamination extrême. par un compteur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de prélever un échantillon, si possible de le concentrer pour que la matière soit la plus concentrée possible, et ensuite le faire analyser dans ce qui s'appelle une chaîne de spectrométrie gamma. Donc le principe de ce détecteur, c'est qu'il va mesurer les différents rayonnements, comme un compteur GGR, sauf qu'il va classer les rayonnements en fonction de leur énergie. Et donc chaque élément radioactif est associé à différents rayonnements qui ont différentes énergies. Donc quand on classe les rayonnements émis par l'échantillon, on peut connaître les éléments radioactifs qui sont contenus dans l'échantillon et les quantifier.
Alors Julien Sirène, pour ce type de mesure, est-ce qu'on peut faire ça librement ou ça nécessite des agréments spécifiques ?
Alors je dirais les deux. C'est-à-dire que évidemment on peut faire des mesures libres, disons, sans avoir d'agrément. Après, pour certains contrôles réglementaires, on est obligé d'avoir un agrément. Par exemple, dans le cas du radon, donc qui n'est pas du tout le même sujet, mais il existe des contrôles réglementaires dans les écoles, les hôpitaux, les crèches de certaines régions. Et donc, seuls des labos agréés peuvent faire ces contrôles, ce qui est le cas, par exemple, de la CRIRAD. Dans le cas de la spectrométrie gamma, le laboratoire de la CRIRAD est également agréé pour faire ces mesures, ce qui lui permet, alors, d'une part, quand même, d'avoir une certaine reconnaissance, puisque le gros, disons, de l'agrément, c'est de faire des mesures en se comparant avec d'autres laboratoires pour vérifier que nos mesures correspondent à la référence, disons. Mais ça nous permet par ailleurs donc de faire un certain nombre d'études pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un agrément.
Alors on va arriver aux analyses de tout ce que vous avez pu mesurer, en sachant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est assez hétérogène en ce qui concerne les aspects de contamination. Par exemple, on peut parler du Vercors, puis d'autres massifs ou la plaine. Comme il y a une diversité de reliefs, comment appréhender cela ?
Dans les années qui ont suivi Tchernobyl, la CRIRAD a fait de nombreuses mesures de contamination des sols, qui ont permis déjà de constater une hétérogénéité notamment des retombées de Tchernobyl. Et donc suite à ces mesures, ainsi qu'aux mesures faites par un adhérent bénévole de la CRIRAD, André Paris, nous avons publié au début des années 2000 un atlas, disons, de la contamination des sols français. Dans cet atlas, c'était particulièrement détaillé dans la partie sud-est de la France. Et donc, oui, il a permis de montrer qu'effectivement, l'hétérogénéité de la contamination des sols est très importante. Donc, une étude dans laquelle, à l'échelle d'une région, on analyse 40 échantillons, n'a pas pour ambition d'être exhaustive, loin de là, mais ça permet, disons, de constater ce qu'il en est 30 ans après Tchernobyl, en fait. Voilà, donc l'ambition est plus modeste que celle de faire un atlas sur toute la région. Mais l'idée, c'est de constater, voilà, de faire un état des lieux simplement 30 ans après Tchernobyl.
Logiquement, les champignons mesurés dans cette cueillette 2015 qui fait suite à la précédente cueillette 30 ans avant pourraient laisser normalement indiquer qu'il y a deux fois moins de teneur, peut-être en césium 137. Logiquement, ça pourrait être le cas, mais c'est peut-être pas forcément ce qui est ressorti. Vous avez eu un petit peu des surprises.
Lors de l'étude faite en 87-97, on avait pu classer les espèces de champignons en fonction de leur capacité à fixer le césium. Donc, 30 ans après, on constate qu'effectivement, certains échantillons, certaines espèces, il n'y a pas de surprise, fixent plus le césium que d'autres. Et disons, les différences correspondent à peu près à ce qu'on avait mesuré 20 ou 30 ans avant, en termes d'échelle de différence. Globalement, on s'aperçoit que la contamination en césium 137 suit la décroissance physique du césium, c'est-à-dire qu'effectivement, on a à peu près deux fois moins de césium 30 ans après Tchernobyl, même si pour certaines espèces, ça diminue plus rapidement et pour d'autres, ça diminue moins rapidement. Après, de nombreux facteurs peuvent expliquer cette différence. Donc d'une part, l'hétérogénéité des secteurs. Donc on a essayé de cueillir des champignons dans les mêmes secteurs que 30 ans auparavant, mais en 30 ans, vous pouvez avoir de très grandes évolutions. Par exemple, on a cueilli des champignons dans le Diois, dans un secteur, où il y a 30 ans, on avait probablement ramassé les champignons sur un versant de la colline, et on n'a pas trouvé de champignons cette fois-ci sur ce versant-là, donc on en a ramassé sur l'autre versant. Donc d'un versant à l'autre, vous pouvez avoir eu une contamination, un dépôt très différent, et donc ce qui a entraîné évidemment des différences sur les échantillons cueillis à cet endroit. Mais globalement, on s'aperçoit qu'on a certaines espèces sur lesquelles la contamination est globalement élevée dans tous les cas. C'est le cas notamment du bolet baie et de la chanterelle en tube. Donc sur ces deux échantillons, on a des contaminations qui dépassent 500 becquerels par kilo sec. A l'inverse, donc, tous les échantillons de trompette des morts qu'on a ramassés présentaient une contamination faible, inférieure à 50 becquerels par kilo sec. Et pour 6 autres espèces, on avait d'importantes variations entre l'échantillon le moins contaminé et l'échantillon le plus contaminé. Et ça pouvait aller, par exemple, dans le cas du petit gris, de moins de 20 becquerels par kilo pour le moins contaminé à plus de 2000 becquerels par kilo pour le plus contaminé.
Effectivement, là, est dressé un tableau avec une certaine tendance pour chaque champignon qui a été édité en 87-97. Finalement, et ce tableau reste, on peut dire, d'actualité pour cette nouvelle cueillette.
Alors, le tableau reste d'actualité, on va dire, en ce qui concerne le classement des espèces, oui. Mais pas en ce qui
le
concerne
potentiel,
les
en fait,
résultats,
par espèce.
Disons, vu que, évidemment, oui, voilà. Le césium, depuis le moment de l'étude, lui, a décru. Alors, ça ne ressort pas de l'étude que nous avons fait là, mais on a pu constater par le passé que certains champignons, en fonction des années, évoluaient dans leur capacité à fixer le césium avec la profondeur de la contamination. C'est-à-dire que vous avez des mycéliums qui sont plus superficiels, d'autres qui sont plus profonds. En fonction, disons, de la position du mycélium, le césium 137, par exemple, suite à Tchernobyl, était plutôt en surface, et puis petit à petit, il s'enfonce. Donc si vous avez un mycélium plus profond, il peut très bien fixer plus de césium plus tard parce que le césium a migré en profondeur.
Alors là, par rapport aux différentes espèces dont il faut finalement se méfier par leur potentiel à capter tout ce qui est césium, localement sur le Vercors, donc vous avez évoqué, Julien Sirène, le petit gris, le tricolome terreux, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qui peut être un champignon dont il faut finalement se méfier, même 30 ans après.
Oui, on peut citer le petit gris, on peut citer aussi la chanterelle en tube, ainsi que la chanterelle jaunissante, même si ce sont des espèces très proches, la chanterelle jaunissante et la chanterelle en tube, même si chez la chanterelle jaunissante, on a mesuré des contaminations relativement faibles dans la nouvelle étude par rapport à ce qui avait été détecté dans l'étude précédente. Après, on peut citer aussi le bolet baie, hein, parmi les espèces les plus contaminées. À l'inverse, disons, parmi les espèces les moins contaminées, on peut citer par exemple la coulmelle, ainsi que la morille. Donc la morille, la coulmelle n'ont pas été analysées dans le cadre de cette étude, mais il y a 20 ou 30 ans, on avait systématiquement mesuré des teneurs très faibles dans ces espèces.
Une disparité qui est conséquente selon les champignons ?
Ah oui, ça peut varier d'un facteur 10 ou 100 entre deux espèces.
Toute proportion gardée concernant naturellement les lieux. Hein. Vous avez réussi un petit peu à classer donc, toutes ces capacités des champignons à emmagasiner le césium 137. Cet effet, donc, la CRIRAD diffuse aussi pour ce qui est précaution à la consommation finalement.
Il faut quand même souligner qu'on n'est pas dans le domaine des risques très importants. On est dans le domaine des très faibles doses. Donc ce n'est pas une consommation occasionnelle de champignons oui, contaminés qui va entraîner un risque important. Par contre, on peut quand même parler de risques non négligeables pour une consommation, disons, de quelques kilos par an de champignons frais pour les espèces les plus contaminées parmi celles qu'on a mesurées. On peut, dans certains cas, conduire à un risque non négligeable, même si on n'est pas non plus dans des concentrations extrêmes, dans des risques extrêmes. Et donc, pour donner un peu un ordre de grandeur, on a comparé, disons, les teneurs des échantillons analysés aux différents seuils existants. Ce qu'une étude de ce type permet de constater, c'est qu'en fait, en fonction de l'endroit d'où le champignon provient, les seuils sont différents. On a différents seuils qui existent d'un point de vue réglementaire. Donc par exemple, à l'heure actuelle, vous avez un seuil, alors je vais parler en becquerels par kilo frais, à 600 becquerels par kilo frais pour des champignons d'autres aliments qui proviendraient des pays de l'Est suite aux retombées de Tchernobyl. Donc ce seuil de 600 becquerels par kilo frais, il est respecté par tous les champignons que nous avons analysés dans le cadre de cette étude. Mais par contre, si vous prenez les seuils liés à la contamination du Japon suite à Fukushima, alors ces seuils sont bien plus faibles, donc les échantillons les plus contaminés de l'étude auraient dépassé ces seuils qui sont actuellement de 100 becquerels par kilo. Donc si vous prenez d'une part les bolets baies que nous avons prélevés et analysés en provenance du Pila, et des chanterelles en tube qui venaient plutôt des monts du Forêt. Donc on était pour ces deux échantillons au-delà de 100 becquerels par kilo. Donc ça veut dire que ces échantillons, s'ils avaient été importés du Japon, ils n'auraient pas passé la douane. Et pourtant, le risque est le même, mais on s'aperçoit qu'on a vraiment une hétérogénéité...
De législation, finalement.
De la législation. On peut ajouter que si, qu'en France, on n'a pas de seuil en la matière. Donc ce champignon, donc cette chanterelle en tube ou ce bolet baie, on peut très bien le ramasser en France et le vendre sur les marchés français sans aucune
restriction.
Contrainte. C'est ça. Et par ailleurs, donc, l'Europe a mis en place de nouveaux seuils donc en cas de nouvel accident nucléaire survenant sur le territoire européen. La CRIRAD a dénoncé ces seuils parce qu'ils sont beaucoup trop laxistes d'après nous. Pour vous prendre l'exemple des champignons, ces seuils seraient fixés au maximum à 1250 becquerels par kilo frais, alors que je le disais, hein, le seuil Fukushima, c'est 100 becquerels par kilo frais, et le seuil suite à Tchernobyl, c'est 600. Donc on est cette fois-ci à des seuils encore plus élevés. Et l'Europe s'est même laissé la possibilité de fixer des seuils encore plus élevés que cette valeur a priori maximale de 1250 seuils, entre guillemets, en cas de circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire, en gros, ils ont laissé la porte ouverte...
une certaine tolérance.
C'est ça.
Le césium chez nous est moins dangereux que chez les autres, a priori.
C'est ça. Mais on s'aperçoit finalement que les autorités, en fait, ont peur de. Se demandent comment elles vont gérer un accident. Et donc, fixent des seuils laxistes en prévision de l'accident. Parce qu'elles vont avoir besoin de gérer, disons, une contamination qui pourrait être massive.
Avec toute l'alimentation derrière qui aussi...
Exactement. Donc en fait, ce qui pointe à travers l'existence, enfin la fixation par les autorités de seuils si élevés, c'est finalement la prise de conscience de l'existence réelle d'un risque d'accident.
Alors cette étude, qui maintenant on le rappelle, a été réalisée il y a 2 ans environ, ça laisse présager après un autre point dans le futur pour se faire un suivi comme ça dans le temps?
Un suivi dans le temps, pourquoi pas? Après, tout est question de financement.
Oui, parce que ça demande aussi des investissements de la CRIRAD, mais aussi peut-être des adhérents et puis un peu des pouvoirs publics aussi.
Exactement. Donc... Régulièrement, chaque année, des particuliers nous contactent pour analyser ponctuellement des champignons. Alors, ça peut évidemment présenter un intérêt, en particulier si, quand les personnes cueillent très fréquemment des champignons au même endroit et donc souhaitent connaître la contamination des champignons qu'ils consomment. Mais malgré tout, l'intérêt reste limité dans le sens où, comme je l'expliquais, la contamination peut varier dans le temps, disons à un endroit donné. Et où finalement un échantillon ponctuel reste ponctuel et donc peu représentatif. Donc c'est pour ça que ce qui est préférable, et ce qu'on a déjà fait à la CRIRAD par le passé, c'est de faire des études de plus grande ampleur en lien par exemple avec des associations mycologiques et avec un financement pouvant provenir de diverses sources. Donc on a eu par exemple le cas l'année dernière de particuliers qui ont fait un financement participatif pour analyser des champignons dans leur secteur. Donc ils ont réussi à regrouper la somme pour faire une analyse de ce type. Il faut savoir qu'une analyse en laboratoire d'un échantillon coûte autour de 200 euros. Donc après, si on veut faire une étude de plus grande ampleur, on voit que les budgets peuvent vite grimper.
Beaucoup d'associations mycologiques ou autres font appel à vos services en ce qui concerne la mesure?
Alors non, je dirais pas beaucoup. Ça a pu être le cas, je pense, par le passé. Donc vraiment au moment où le problème était particulièrement criant, dans les années qui ont suivi Tchernobyl. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas le cas. C'est plutôt... on est contacté ponctuellement, disons, par des associations, mais ça débouche assez rarement sur des campagnes d'analyse. Je tiens quand même à souligner l'implication, dans le cadre de l'étude de 2015, de la Fédération mycologique Bas-Dauphiné-Savoie, donc qui a participé à l'étude et qui nous a notamment envoyé des champignons et puis qui a parlé de cette étude dans son réseau.
Et puis avec effectivement le déclin de ce césium 137, maintenant que vous avez une idée de la classification des champignons, peut-être que ça peut être moindre intérêt, enfin je ne sais pas.
Disons, effectivement, le risque, on s'aperçoit que le risque aujourd'hui est plus faible que dans les années qui ont suivi Tchernobyl, mais on s'aperçoit quand même qu'il n'est pas nul ce risque. Donc c'est là où ça présente quand même un intérêt de faire régulièrement des analyses pour montrer que même 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais même 40 ans après Tchernobyl, on peut toujours trouver en France des champignons contaminés et qui présentent un risque non négligeable, voire qui dépasseraient des seuils en fonction du niveau de ces seuils.
Bien, merci beaucoup, Julien Sirène. Est-ce qu'il y a d'autres aussi mesures sur lesquelles vous êtes attaché en ce moment, des mesures un peu particulières sur le nucléaire qui ont été commanditées ou la CRIRAD peut avoir aussi des initiatives pour se focaliser sur des mesures?
La CRIRAD fait soit des études qui lui sont commandées, soit peut tout à fait saisir les moyens de l'association pour faire des études sur ses fonds propres, sur tout un tas de domaines. Donc l'un des domaines où on travaille particulièrement, c'est les mines d'uranium. Donc en France, toutes les mines d'uranium ont fermé, mais on a eu 200 mines et donc on a de nombreux secteurs pollués par l'impact de ces anciennes mines d'uranium. Mais on a également des mines d'uranium, enfin pas la France, mais disons la France importe son uranium depuis d'autres pays, en particulier le Niger, où les mines actuellement en exploitation entraînent une importante contamination. Donc la CRIRAD s'implique beaucoup sur la question de la pollution liée à ces mines d'uranium en France, mais par le passé, mais à l'heure actuelle, en particulier en Afrique. Et donc, quand la CRIRAD se saisit de ce dossier sur ses fonds propres, il faut aussi qu'elle ait un appui local, des associations locales qui vont s'emparer du dossier et qui vont le faire vivre. Parce que la CRIRAD, malgré tout, a certes 6000 adhérents, mais a quand même des moyens relativement limités. Donc elle a besoin, en fait, du maillage, disons, des associations locales qui vont vraiment faire, en synergie avec la CRIRAD, un travail de terrain pour qu'un dossier avance. Donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Très souvent, quand on s'empare d'un dossier, c'est parce qu'un particulier localement avait un compteur GGR et a mesuré une anomalie, ou c'est parce qu'une association a fait un prélèvement, nous l'a envoyé pour analyse et on a détecté quelque chose. Donc ça part très souvent d'une initiative locale. Donc ces initiatives sont vraiment majeures dans le processus. C'est grâce à ces initiatives, disons, qu'on peut faire émerger des problèmes que la CRIRAD va ensuite travailler avec les moyens de son laboratoire pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais les initiatives locales sont primordiales.
Et le terrain aussi géographique, là on n'est quand même pas bien loin de nombreuses centrales. Est-ce que cette coïncidence finalement de proximité, ça vous donne d'autres champs?
Alors la CRIRAD a un travail local, effectivement, du fait de la présence de nombreuses installations nucléaires dans la vallée du Rhône. Donc on a fait de nombreuses études, par exemple, d'impact des installations nucléaires sur la contamination de l'eau du Rhône, des plantes aquatiques ou des végétaux de manière globale se situant à proximité de ces installations. Mais on a fait ensuite, des études autour de différents sites, Tricastin, la centrale de Saint-Alban... Donc, on fait de nombreuses études autour des sites de la région. Après, la CRIRAD a aussi un champ beaucoup plus large, puisqu'on peut être amené à se déplacer sur toute la France, mais aussi à l'étranger. On s'est déplacé à Fukushima, donc les mines d'uranium, on s'est déplacé beaucoup dans différents pays d'Afrique pour étudier l'impact des mines d'uranium. Donc notre champ d'investigation est à la fois local, national et international.
Les études sur lesquelles on vient de discuter, et vous, Julien Sirène, d'argumenter, sont consultables librement pour le public?
Oui, donc vous pouvez trouver gratuitement sur le site de la CRIRAD, d'une part, une fiche de synthèse des analyses qui avaient été faites entre 87 et 97, et d'autre part, le rapport complet et une synthèse de l'étude faite en 2015-2016.
Merci en tout cas pour ce focus sur les champignons et puis aussi sur les activités de ce centre. On le rappelle, situé en périphérie de Valence, ça a toujours été le lieu historique d'implantation de la CRIRAD.
Alors au départ, la CRIRAD s'est créée donc à Pont-de-Barret, c'est un petit village à l'est de Montélimar. Elle a très vite migré à Montélimar avant de s'installer au début des années 90 à Valence. Et donc on est depuis 2013 dans de nouveaux locaux basse consommation. C'est un bâtiment en bois paille qui nous permet d'avoir un lieu agréable, à la fois avec une faible empreinte écologique.
Merci beaucoup, Julien Sirène.